Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, il est 19h. Le journal vous est présenté par Sarah Guibaudot. Bonsoir Sarah.
Bonsoir. Au Sri Lanka, une série d'attaques coordonnées a pris pour cible ce matin la communauté catholique qui célébrait Pâques, ainsi que des hôtels touristiques. Le dernier bilan s'élève à 207 morts et des centaines de blessés. Ces attentats n'ont pas été revendiqués pour l'heure. Sur place, c'est l'incompréhension qui domine. En Ukraine, nous aurons dans quelques minutes sans doute les premières estimations après la présidentielle. C'est un peu chronique d'une victoire annoncée pour le comédien Zelensky, mais que va-t-il faire après la grosse interrogation? Nous retrouverons Claude Brouillot à Kiev. La campagne des européennes est lancée sur France Inter. Dans Questions politiques, le communiste Yann Brossa plaide pour une sortie des traités européens, mais peine à se distinguer du programme de la France insoumise. Le journal des sports avec une Fed Cup de tennis haletante ce week-end. La France et la Roumanie sont à égalité. On attend de savoir qui va disputer le double décisif. En football, le Paris Saint-Germain décroche le titre de champion de France grâce au match nul de Lille et avant même d'accueillir Monaco ce soir au Parc des Princes. En rugby, c'en est fini des espoirs de Toulouse en Coupe d'Europe. Le stade toulousain s'est incliné face à Leicester. Rendez-vous dans un quart d'heure avec Cécilia Arbona.
France Inter.
Il était environ 8h30 au Sri Lanka quand les premières explosions ont semé la terreur à Colombo, dans trois hôtels haut de gamme du bord de mer et dans trois églises catholiques où les fidèles se rassemblaient pour célébrer Pâques. Quelques heures plus tard, deux nouvelles explosions, une dans un hôtel au sud de la capitale et une autre dans une maison au nord de Colombo où un kamikaze s'est fait exploser à l'arrivée de la police. Bonsoir Audrey Tison.
Bonsoir.
Ces attaques ont donc fait 207 morts et replongé le Sri Lanka dans des scènes de guerre.
Oui, devant une grande église à la façade blanche, des Sri Lankais à l'air hagard, d'autres crient, quelques personnes au sol, ensanglantées, on essaie d'extirper les blessés. Trois églises viennent d'être touchées quasiment au même moment, trois autres explosions dans des hôtels de luxe de Colombo. Dans au moins l'un d'eux, c'est un kamikaze qui s'est fait exploser au milieu du restaurant. Et puis quelques heures plus tard, deux autres explosions encore, dans un hôtel et dans une habitation de la banlieue de Colombo. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, au moins 207 morts, plus de 400 blessés qui sont progressivement acheminés vers les hôpitaux. Au cœur du dispositif, l'hôpital de Colombo. Écoutez le directeur général des services.
C'est la première fois au Sri Lanka qu'il y a autant d'attentats en quelques heures. Rien que dans cet hôpital, nous comptabilisons 253 blessés et 47 morts. Nous arrivons à gérer l'urgence. Nous accueillons les blessés graves des autres hôpitaux et nous envoyons les blessés légers vers d'autres hôpitaux. Et ça fonctionne plutôt bien.
Et parmi les victimes recensées ce soir, des étrangers, notamment plusieurs Américains et des Britanniques, mais à notre connaissance, pas de victimes françaises.
Trois églises catholiques ont donc été frappées, une à Colombo, une à Negombo dans le nord et une à Batticalo à l'est. L'archevêque de Colombo, Malcolm Ranjit, demande justice, mais demande aussi aux Sri Lankais de ne pas se faire justice eux-mêmes. Écoutez.
C'est un jour extrêmement triste pour nous tous. Je voudrais faire part de mon profond chagrin et de ma compassion pour toutes les familles qui ont perdu un proche et pour ceux qui sont blessés. Je demande au gouvernement de mener une enquête forte et impartiale et de trouver les responsables de ces actes afin de les punir sans merci. Car seuls des animaux se comportent ainsi. Je demande au peuple Sri Lankais de ne pas agir par eux-mêmes et de maintenir la paix et l'harmonie dans ce pays. Je demande à ceux qui le peuvent de donner du sang pour aider ceux qui en ont besoin. Je demande également aux médecins de nous aider. Ceux d'entre vous qui étaient de repos ce dimanche, venez nous aider. Même si ce n'est pour sauver qu'une vie, ce sera déjà une grande action.
Audrey Tison sur place, c'est l'incompréhension qui domine dans un pays qui pensait avoir retrouvé la paix.
C'est la pire attaque depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Un véritable choc pour Jenani Fernando, une habitante de la capitale.
J'ai 42 ans. J'ai l'impression d'avoir fait un saut en arrière de 30 ans. C'est horrible. La question que tout le monde se pose, c'est qui veut nous entraîner dans le passé alors que nous, nous voulons aller de l'avant.
Des propos recueillis par nos confrères de RFI. Qui a pu commettre ces attaques? Parmi les pistes explorées, un mouvement islamiste qui avait été signalé il y a 10 jours comme susceptible de commettre des attaques suicides dans des églises. Mais prudence, hein, il n'y a eu aucune revendication ce soir. Au moins 7 personnes ont été interpellées, des Sri Lankais, et les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels liens avec l'étranger.
Merci Audrey Tison. Vous l'avez dit, aucune victime française n'a été signalée, mais à Paris, le Quai d'Orsay a quand même ouvert sa cellule de crise, joignable au 01 43 17. 7 51 00. Le pape François a exprimé sa tristesse et sa proximité affectueuse à la communauté chrétienne touchée pendant qu'elle était recueillie et en prière, et à toutes les victimes d'une si cruelle violence. Fin de citation. Ce matin sur la place Saint-Pierre de Rome, pendant sa traditionnelle bénédiction pascale, profonde tristesse exprimée aussi sur Twitter par Emmanuel Macron, indignation dans le monde entier. Donald Trump a encore gaffé, le président américain, dans un premier tweet a évoqué 138 millions de victimes. À Paris, la grande messe de Pâques a été célébrée dans l'église Saint-Eustache, dans le quartier des Halles, pas très loin de la cathédrale Notre-Dame, inaccessible mais quasi sauvée, selon le ministre de la Culture, Franck Riester. Les pignons entre les deux tours, notamment, ont pu être stabilisés et sécurisés. Dans son homélie ce matin, l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, a tenu à remercier à nouveau les pompiers de Paris.
Nous rendons hommage à nos chers pompiers, qui, eux aussi, ont montré leur savoir-faire, leur courage, et nous les remercions d'avoir préservé l'essentiel, quelquefois et sans doute au risque de leur vie. Mon général, vos hommes ont pu sauver bien des choses dans la cathédrale, mais ils ont sauvé aussi un objet qui pour nous est précieux. Cet objet, c'est ce lectionnaire, cette parole de Dieu. Il est encore tout abîmé, plein de cendres. Vous l'avez sauvé et je voulais vous le remettre. C'est une façon pour nous, bien humble, de vous remercier. Merci encore.
Propos recueillis par Yann Gallic. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après les slogans « Suicidez-vous » scandés hier par certains manifestants parisiens à l'attention des policiers. Une enquête pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en réunion. Alors que la police est touchée par une importante vague de suicides depuis le début de l'année, ces slogans ont suscité l'indignation des syndicats de personnalités politiques et de figures des Gilets jaunes comme Jérôme Rodriguez et Priscilla Ludowski. Sur Facebook, ils dénoncent avec vigueur ses propos invitant les policiers à se suicider. C'est donc l'acteur de télévision et ancien comique Volodymyr Zelensky, 41 ans, qui devrait être élu ce soir président de l'Ukraine. Les bureaux de vote viennent de fermer. Zelensky est nouveau en politique. Il en a fait son principal argument de campagne, tout en restant très flou sur son programme. Une pochette surprise a dénoncé son adversaire, le président sortant, Petro Porochenko. Porochenko, issu de la révolution pro-européenne de Maïdan en 2014, mais qui a échoué à faire reculer la corruption et la pauvreté. Bonsoir Claude Brouillot, vous êtes notre envoyé spécial à Kiev et les premiers résultats viennent de tomber.
Bonsoir Sarah, oui effectivement, donc selon les premières estimations, 73% des voix pour Volodymyr Zelensky, 25% seulement pour Petro Porochenko, un peu comme prévu donc. Un comédien deviendrait le nouveau président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui a commencé par remercier sa famille et son équipe de campagne. Ça faisait déjà 2 semaines que les instituts de sondage ici annonçaient cette victoire très large de Volodymyr Zelensky, malgré une absence réelle de programme. Donc le comédien très populaire en Ukraine, mais aussi en Russie, a fait en sorte de surfer sur cette volonté d'une majorité d'Ukrainiens de tourner la page des politiciens oligarques qui n'ont pas su ou pas voulu retisser des liens de confiance avec la société civile 5 ans après la révolution du Maïdan, sur fond de réformes insuffisamment efficaces et de scandales de corruption encore trop présents.
Mais Volodymyr Zelensky n'est pas encore au pouvoir. C'est une période d'incertitude politique qui s'ouvre en Ukraine.
Absolument, Sarah. Si l'on se réfère au texte, Petro Porochenko peut remplir encore ses fonctions pendant 6 semaines jusqu'à la date butoir du 8 juin. La question, c'est comment mettre à profit cette période pour Volodymyr Zelensky, qui a besoin d'une majorité au Parlement pour gouverner. Or, Zelensky n'a pas de parti sur lequel s'appuyer. Il lui faudra donc soit nouer des alliances durant ces 6 semaines, soit envisager une dissolution du Parlement et des législatives anticipées, donc pour éviter que Petro Porochenko, bien que battu ce soir, victoire à la présidentielle ne lui impose une forme de cohabitation.
Merci Claude Brouillou en direct de Kiev. Au Mali, au moins 12 soldats ont été tués ce matin près de la frontière mauritanienne. L'attaque est attribuée à des djihadistes.
Le journal de 19h sur France Inter.
La campagne des élections européennes sur France Inter. Invité de questions politiques ce dimanche, le communiste Yann Brossa a dénoncé une Europe malade du libéralisme. Au Parlement de Bruxelles et de Strasbourg, les communistes siègent dans le groupe de la gauche unitaire européenne qui pourra accueillir aussi les élus de la France insoumise qui le souhaiteront. Alors, qu'est-ce qui distingue le Parti communiste et la France insoumise? Aujourd'hui, les deux plaident pour une autre Europe qui s'affranchit des traités, mais Yann Brossa revendique sur ce sujet l'antériorité du PCF.
Je dis qu'il faut s'affranchir des traités européens. Je constate d'ailleurs qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne, comme les Portugais qui ont maintenant un gouvernement de gauche, ont décidé contre les recommandations de l'Union européenne d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux et leur économie s'en porte mieux. La règle des 3%, bien sûr, c'est une absurdité totale. Il faut s'affranchir de cette règle des 3%. D'ailleurs, aucun économiste n'est capable de nous dire pourquoi c'est 3%, pourquoi c'est pas 4, pourquoi c'est pas 5. Et d'ailleurs, je vois que même des gens qui ne sont pas de grands révolutionnaires comme Nicolas Hulot, au moment où il est sorti du gouvernement, a dit « il faut sortir du calcul des 3% les dépenses qui visent à réaliser des investissements pour la transition énergétique ». Donc oui, je dis que ce serait salvateur de se sortir de ces règles absurdes. Le Parti communiste, il n'a voté aucun des traités européens libéraux qui nous font aujourd'hui tant souffrir. Aucun. Ni le traité de Maastricht, ni le traité constitutionnel européen. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, faites confiance à ceux qui, sur ce sujet, n'ont jamais flanché, jamais menti et jamais trahi, en l'occurrence les communistes.
Yann Brossa, tête de liste du PCF pour les élections européennes dans questions politiques. Le centriste Jean-Christophe Lagarde, tête de liste UDI, peut sembler lui assez proche des positions de La République En Marche. Mais s'il y avait eu un projet chez Emmanuel Macron, nous aurions pu faire liste commune, tacle Jean-Christophe Lagarde. Les étudiants étrangers hors Union européenne verront bien leurs frais d'inscription dans les universités françaises augmenter dès la rentrée prochaine. Les textes ont été publiés aujourd'hui au journal officiel. Il leur en coûtera 2 770 euros en licence et 3 770 euros en master, sauf pour ceux qui ont déjà entamé leur cursus. Un bébé sain et sauf, après une chute de 3 étages, l'enfant âgé d'un an est passé au travers des grilles qui protégeaient la porte-fenêtre de son appartement de Forbach en Moselle. Il a atterri dans des buissons, mais d'après France Bleu Lorraine Nord, le bébé n'a pas une égratignure. Les parents ont été mis hors de cause. Lever le pied, vitesse réduite de 20 km/h dans 6 départements du Finistère à la Seine-Maritime, à cause d'une pollution de l'air, pollution aux particules fines. L'alerte a été activée à 17h en Ille-et-Vilaine, mais elle sera levée ce soir à minuit dans le Calvados. Pour ce week-end de Pâques, certains ont choisi le camping, celui de l'aquarelle du Limousin à la Souterraine où s'est rendu Céline Autin est déjà bien rempli. Il faut dire que le camping d'aujourd'hui a souvent beaucoup gagné en confort et tient plus du village de vacances.
À l'ombre des arbres, le gérant François Montillet finit de monter les dernières nouveautés, des cabanes sur pilotis qui permettent de garer des vélos.
Ce sont des tentes en dur, à 1m80 de hauteur, une petite chambre avec prise électrique pour le téléphone portable, une prise pour recharger le vélo s'ils sont en vélo électrique et surtout la vue sur l'étang du Chais.
Pour ce long week-end de Pâques, beaucoup de familles posent leurs valises au camping et tout est prévu pour eux.
On a des parcours de tyroliennes dans la partie boisée du camping. C'est vraiment pour les tout petits. Mais il faut gérer aussi les parents le soir avec les soirées karaoké, avec les soirées dansantes. On arrive presque à un soir, une animation.
Pour les plus grands, la pêche est également ouverte sur l'étang du Chais. François Montillet n'est pas peu fier de ses efforts. Il travaille depuis l'hiver pour ce premier rendez-vous de la saison.
Il faut nettoyer en même temps qu'il faut aménager. Mais nettoyer, c'est une course contre la montre. La tonte, ça y est, c'est parti. Et moi, j'aime bien laisser des petites pâquerettes apparentes quand même. On aime bien garder ce petit côté vraiment nature.
Côté restaurant-brasserie, comptez sur un menu de circonstances.
On a prévu de rajouter de l'agneau avec une sauce au thym, puis voilà, pour faire un petit repas pour Pâques.
Il ne reste plus qu'à accueillir tout le monde. Pour ce week-end de Pâques, le camping enregistre 80% de réservations.
La route.
Point route avec la grotte Chauvet 2 en Ardèche, le site UNESCO du premier chef-d'œuvre de l'humanité. Visitez la grande exposition des lions et des hommes. Consultez grottechauvet2ardèche.com.
Bonsoir Adèle Bossard.
Bonsoir à tous.
Au PC Mobilité de Radio France, vous nous signalez un accident dans le Nord.
Oui, sur l'A25, juste avant d'arriver à Lille, depuis Dunkerque, vous êtes ralenti sur une vingtaine de minutes. À l'entrée de Paris, on a quelques ralentissements également sur les grands axes, malgré le long week-end de Pâques. C'est notamment le cas sur l'A6 à hauteur de Rungis et sur l'A13 depuis la Normandie au péage de Mantes-la-Ville, même si ça roule quand même beaucoup mieux qu'un dimanche soir ordinaire en Ile-de-France. Et puis attention sur l'A10 en Indre-et-Loire, à l'instant, Vinci annonce la coupure de l'autoroute entre Château-Renaud et Monet pour permettre l'intervention d'un hélicoptère après un accident.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, c'est avec Jean-Michel Golinski.
Renforcement du vent d'est à partir de ce soir en Méditerranée, vers 90 km à l'heure entre Corse et continent, parfois plus de 120 sur le sud de la Corse, placé en vigilance orange, avec pour cette journée de lundi le maintien du beau fixe du nord de la Seine aux frontières du nord-est. Sur le reste du pays, l'ambiance sera plus mitigée, déjà souvent menaçante le matin du pourtour méditerranéen aux Pyrénées centrales, avec pas mal de pluie dans le golfe du Lion. En journée, le risque d'ondées va gagner vers le Dauphiné, le massif centrale, la Nouvelle-Aquitaine et l'est de la Bretagne. Les températures de l'après-midi vont rester élevées dans la moitié nord et dans le Grand Est avec 25 degrés au Mans, Lille, Reims, Orléans et Nancy, 26 à Bourges et à Besançon, 27 à Strasbourg et à Paris. Elles vont bien remonter par rapport à aujourd'hui à l'est du Rhône avec 27 à Lyon, 26 à Marseille. Par contre, du golfe du Lion au bassin aquitain, le maximum sera de 22 degrés.
19h07 sur France Inter, le journal des sports. Bonsoir Cécilia Arbona.
Bonsoir Sarah.
C'est la Fed Cup de tennis qui nous a tenus en haleine ce week-end. On va tout de suite à Rouen, où les Françaises sont à égalité avec les Roumaines et où va commencer le match double pour les départager.
On va retrouver effectivement Jean-Pierre Blimeau. Jean-Pierre, le tennis, c'est même carrément plus stressant qu'une bonne série Netflix. Où on en est là? Est-ce que les Françaises sont entrées sur le court pour le dernier match?
Oui, comme toutes les bonnes séries, vous savez, ça n'en finit pas. Hein. En tout cas, les Françaises sont entrées sur le court et elles sont à l'échauffement. Kristina Mladenovic et Caroline Garcia alignées. C'était un pressentiment ce week-end et c'est devenu une réalité. Elles n'avaient pas joué en double ensemble en équipe de France depuis la finale perdue contre les Tchèques en 2016. Elles ont gagné Roland-Garros sur la terre battue parisienne en 2016 également. Et donc, le capitaine Julien Beneteau avait plus ou moins prévu de les aligner. Ça dépendait aussi des résultats de ce week-end. Eh bien, la configuration est telle que c'est le cas ce soir. Il faut dire que dans cette confrontation entre la France et la Roumanie, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu des victoires déjà de Simona Halep, la numéro 2 mondiale, tenante du titre de Roland-Garros, sur terre battue bien évidemment, qui a disposé de Kristina Mladenovic et de Caroline Garcia, cette dernière battue en début d'après-midi. Et puis il y a eu tout à l'heure Pauline Parmentier.
Et elle nous a sauvés, Jean-Pierre. Elle nous a sauvés, voilà. Cette Pauline.
Oui, Pauline Parmentier, la nordiste, qui avait été alignée justement, je pense, pour préserver Kristina Mladenovic pour un double éventuel. Et finalement, elle a réussi à vaincre en 3-7 son adversaire, Irina Begu, qui a pourtant fait douter la nordiste dans la deuxième manche. Et le double décisif qui s'annonce épique, car c'est vrai que, ironie du sort, et ça arrive parfois en Fed Cup, vous pouvez rencontrer une joueuse par exemple en début d'après-midi, c'est le cas de Caroline Garcia contre Simona Halep, et la retrouver le soir en double pour nouvelle confrontation. Et celle-là, elle est cruciale parce que les Françaises, qui ont déjà disputé 5 finales de Fed Cup dans leur histoire, dont 2 victoires en 97 et 2003, vont tenter de se qualifier pour leur 6e finale. La dernière, je vous l'ai dit, c'était en 2016. On n'en est pas encore là. Il va falloir dominer les Roumaines, avec notamment aux côtés de Simona Halep, une spécialiste du double, Monica Niculescu, qui va fouler pour la première fois la terre battue rouennaise et qui est une très bonne joueuse de double. Mais attention, il faut rappeler quand même, Cécilia, que Kiki, donc Kristina Mladenovic, et Caro, alias Caroline Garcia, je prends les surnoms officiels des supporters, ont aussi des atouts.
Oui, et puis elles s'aimaient pas trop il y a 2 ans. Alors on va voir si elles ont réussi à se réconcilier sur le court. C'était Jean-Pierre Blimeau à Rouen.
On quitte la terre battue de Rouen pour celle de Monte-Carlo avec la victoire de l'Italien Fabio Fognini.
Après avoir éliminé l'Espagnol Rafael Nadal hier, il était logique qu'il lui succède aujourd'hui. Fognini, 31 ans, spectaculaire, théâtral, comme à son habitude, a remporté le plus beau de ses 9 titres. Il a battu cet après-midi le Serbe Dusan Lajovic, 6-3, 6-4. Rencontre suivie, décryptée pour nous par Fabrice Abgral.
Vainqueur du Rolex Monte Carlo Masters 2019, il obtient son 9e titre, le premier en Masters 1000, Fabio Fognini, Italie.
Le sacre de Fabio Fognini à Monte Carlo, c'est la victoire du talent, le succès d'un artiste du tennis, un joueur peu connu du grand public, mais à l'adresse diabolique. Un joueur hors norme qui aura dû attendre l'année de ses 32 ans pour remporter le titre le plus prestigieux d'une carrière débutée en 2004. Fabio Fognini est venu conclure victorieusement une incroyable semaine au cours de laquelle il a dominé notamment Alexander Zverev, le numéro 3 mondial, mais surtout hier en demi-finale, le triple tenant du titre, Rafael Nadal, 11 fois vainqueur sur le rocher. Aujourd'hui en finale, Fabio Fognini n'a jamais vraiment été inquiété par Dusan Lajovic, le 48e mondial qui, à 28 ans, disputait la première finale de sa carrière. Le Serbe n'a pas été aussi efficace, fringant et étincelant que lors des tours précédents. Il a cédé face à la solidité, au tennis imprévisible et tout en finesse de Fabio Fognini, terriblement efficace, même si sur le court, il ne donne jamais l'impression de forcer. Fabio Fognini est le premier Italien à s'imposer à Monte Carlo depuis Nicola Pietrangeli en 1968. Demain, il pointera à la 12e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.
Fabio Fognini, qui a un petit côté playboy, était en représentation sur le court et devant sa cour. De nombreux Italiens avaient passé la frontière. Ils étaient dans les tribunes très bruyants pour encourager le joueur originaire de San Remo. Il a dit quelques mots en français, s'il vous plaît. Et non, pas du tout, ce dimanche n'est pas le plus beau jour de sa vie. Fabio Fognini.
Je pense que c'est le deuxième. Le premier, c'était Federico. Quand il est né, c'était... Bon, c'est différent. C'est différent, mais bon, je suis très contente. Très content d'avoir la coupe ici avec moi et le time pour fêter.
Pourquoi Fabio? Ça marche aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui?
Parce que je gagne. C'est tout pour l'instant. J'ai besoin de 2-3 jours pour digérer ça et voir la coupe là et dire ah bon, je gagne.
En rugby, l'aventure européenne s'est arrêtée en Irlande pour le Stade toulousain.
Dommage pour Toulouse qui revenait un petit peu au niveau européen mais qui s'incline sur les terres du plus fort que lui, de l'ogre Leinster, champion en titre 30-12, Vincent Pellegrini.
Ils ont été valeureux, courageux, audacieux parfois, mais cela a été loin de suffire aux Toulousains pour inquiéter une équipe du Leinster impressionnante de maîtrise et d'efficacité. Dès le début de la rencontre, les Irlandais ont confisqué le ballon et n'ont pas tardé à concrétiser en marquant 2 essais dans les 25 premières minutes. Malgré quelques arabesques de l'ailier feu follet, Cheslin Colby, les Toulousains n'ont jamais pu prendre à défaut l'impitoyable défense du Leinster. Les Irlandais menaient à la pause 17-6 et la deuxième période a offert le même scénario que la première. Le Leinster a déroulé son jeu précis, sans faute de goût. Le Stade toulousain a subi sans pouvoir desserrer l'étreinte. Le score final est lourd, 30-12, mais logique. Dans 3 semaines, c'est bien la province irlandaise qui visera face aux Anglais des Saracens le 5e titre européen de son histoire. À l'Aviva Stadium de Dublin, Vincent Pellegrini, France Inter.
Et les Saracens de Londres qui se sont qualifiés hier après avoir vaincu le Munster 32-16 dans le challenge européen, ce qu'on appelle la petite coupe d'Europe. La finale à Newcastle le 10 mai prochain sera 100% française. Elle opposera La Rochelle à Clermont, deux clubs du top 14 qui se défieront donc en Angleterre. En rugby à 7, le beau parcours de l'équipe de France féminine au Japon, 4e étape du circuit mondial, s'est achevée au pied du podium. Après une défaite aujourd'hui 36-12 face aux États-Unis dans le match pour la 3e place.
Sacré sans jouer, le Paris Saint-Germain tient enfin sa couronne de champion de France de football.
Et quelle couronne, elle pique un peu les cheveux des joueurs, elle racle la gorge des supporters. Ce titre manque de panache. Le PSG peut dire merci ou pas à son dauphin Lille qui a fait match nul à Toulouse 0-0. Paris reçoit dans 2 heures l'AS Monaco au Parc des Princes et a intérêt de régaler son public pour se faire pardonner. On va retrouver au parc Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Cécilia.
Bonsoir Fanny. Retour des stars ce soir sur la pelouse.
Ah ouais, elles sont attendues. On n'a pas encore la composition du match et donc de l'équipe du Paris Saint-Germain, mais ça ne fait plus guère de doute qu'on verra. Eh bien, Marco Verratti de retour de suspension. On retrouvera Marquinhos, il sera capitaine normalement ce soir. On reverra Kylian Mbappé qui avait été laissé au repos. Ça avait fait grand bruit, notamment lors de la défaite à Nantes. Et puis, on va revoir la star brésilienne Neymar normalement. Alors, a priori, il ne sera pas titulaire, mais il devrait disputer quelques minutes du match. Ça ça, je peux vous dire que sur le parvis du stade, eh bien, ça suffisait à enflammer les supporters. Voilà de quoi ils nous parlaient. Oui, ils sont fiers tout de même de ce titre de champion de France, le 8e hein, tout de même dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais eux, ils étaient hyper heureux de voir tout à l'heure Neymar rejouer. Neymar qui n'a plus disputé un seul match depuis le 23 janvier dernier et sa blessure au pied droit. C'était en Coupe de France face à Strasbourg. Eh bien, le voilà de retour. Il va grappiller quelques minutes sans doute ce soir pour se préparer au mieux au match eh bien, de samedi prochain. Match ô combien important puisque ce sera la finale de la Coupe de France face à Rennes.
Fanny Lechevestrier au Parc des Princes qui suivra donc pour France Inter ce match PSG AS Monaco. Deux résultats de cet après-midi. Nantes a battu Amiens 3-2 et Saint-Etienne est allé gagner à Reims 2-0.
Chez les dames, on s'intéresse à la demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Et à la bonne prestation de l'Olympique Lyonnais qui a battu Chelsea tout à l'heure 2-1. C'était au Groupama Stadium. Le récit de Sébastien Riglet.
Lyon voulait marquer, ne pas encaisser de but au Groupama Stadium. La mission a été partiellement remplie. Et pourtant, l'OL a longtemps dominé Chelsea. Delphine Cascarino à la 28e, puis Amandine Henry à la 39e, donnait le sourire aux 22 911 spectateurs du Groupama Stadium. Les Lyonnaises ont continué à dominer les Anglaises en seconde période, jusqu'à ce but encaissé à la 73e minute. Une belle frappe de l'extérieur de la surface. Tout reste désormais à faire dans cette demi-finale. Le match retour, ce sera dans tout juste une semaine à King's Meadow, l'enceinte des Anglaises, là où Chelsea l'avait emporté 2-0 face au PSG au tour précédent. Les triples championnes d'Europe en titre devront sortir un match solide si elles veulent espérer affronter le Bayern de Munich ou Barcelone en finale à Budapest. Sébastien Riglet à Lyon pour France Inter.
Et dans le calcio, le championnat de foot italien, la ville de Turin a doublement fêté ses joueurs et ses joueuses hier, puisque l'équipe féminine de la Juventus a elle aussi conservé son titre de championne du pays dans la foulée du 8e sacre consécutif des messieurs. Les féminines ont conservé leur suprématie nationale en battant Vérone 3-0.
Et c'est une Kawasaki qui a remporté les 24 heures du Mans.
La moto numéro 11 qui a mené quasiment toute cette course depuis le départ, c'était hier à 15h. Elle a donc arraché la victoire sur le circuit Bugatti. C'est le 14e succès du constructeur japonais dans ces 24 heures du Mans. Deuxième épreuve du championnat du monde d'endurance moto. Trois pilotes se sont relayés pour l'emporter. David Checa, Erwan Nigon et Jérémy Guarnoni. Ils ont partagé le guidon, ils vont partager la victoire donc. Et on va entendre tout de suite le bonheur de Jérémy Guarnoni. C'est un Toulousain de 25 ans. Vous allez l'entendre, il est nature, authentique et très touchant.
C'était la plus belle course de ma vie sûrement. Et je pense que pour un paquet de gens du monde de la moto, du monde de l'endurance, ils vont s'en rappeler de celle-là parce que c'était une course exceptionnelle. Voilà. Un finish comme ça, ça arrive une fois tous les... Ouais, je sais même pas si c'est déjà arrivé, donc voilà, c'est exceptionnel. Quand j'étais dans la ligne droite, là, boah, le monde et tout, c'est, voilà, c'est des sensations. Y a pas de mots, quoi, y a pas de mots. C'est trop beau, voilà, moi je pleurais sur le casque. Dès que j'ai doublé Johnny, je commençais à chialer parce que voilà, je savais que c'était gagné. J'avais des crampes et tout, je dis mais tu sais rien, voilà. Et j'ai pleuré tous les quatre derniers tours, je pleurais et voilà. Toutes les larmes de mon corps, toutes les dernières gouttes qui restaient dans mon corps, je les ai tout pleuré. Alors que c'était pas fini, hein, mais je pleurais parce que je savais que j'allais aller au bout.
Voilà, ça fait du bien un sportif pas formaté, hein, pas avec un plan com. Interview signée Boris Allier de France Bleu Men. En cyclisme, le champion des Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel, a gagné in extremis la 54e édition de l'Amstel Gold Race, la seule classique cycliste de son pays. Après un final renversant, on va écouter ce jeune homme de 24 ans.
J'étais un peu à bloc, donc je pouvais pas suivre et je suis resté dans le groupe de poursuivants et là, je sentais que les jambes, ils allaient de mieux en mieux encore et à la fin, j'ai juste essayé d'attaquer encore quelques fois et la dernière fois que j'attaque avant Bimmelberg, c'est la bonne et c'est incroyable d'encore sprinter pour la victoire. Bah, je ne sais pas comment on a fait, mais on a encore roulé pour la victoire. C'est difficile à croire et ça va encore durer quelques heures, je pense.
Mathieu Van Der Poel. Alors Sarah, si je vous dis poule, ça vous dit rien de particulier?
Non.
Mais si je vous dis poupou?
Bah, Poulidor, Raymond Poulidor, voilà. Celui qui était toujours dernier ou deuxième.
Voilà,
ou...
le deuxième. Eh ben, écoutez, sachez-le, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est le papy de Mathieu Van Der Poel, celui donc qui vient de gagner aux Pays-Bas. On va retrouver, pas un papy, mais un fringant jeune homme qui assiste au double en ce moment France-Roumanie. Jean-Pierre Blimaud, qu'est-ce qu'elles font les filles? Qu'est-ce qu'elles font vos copines?
Kiki. Écoutez, elles sont à égalité. Un jeu partout avec les Roumaines, Simona Halep et Monica Niculescu. La partie vient de débuter. On rappelle que ce double est décisif. L'équipe qui gagnera sera qualifiée, en tout cas, qualifiera sa nation pour la finale de la Fed Cup qui aura lieu en novembre prochain en Australie. Ça, on le sait déjà. Kristina Mladenovic est actuellement au service. Les deux équipes, donc, à un jeu partout. Les Françaises avaient remporté le premier jeu de cette partie et ça peut durer. Parce que vous savez, un match de double en tennis, ça dure certes 3 manches au maximum, mais je me souviens qu'en 2016, lors de la finale face aux Tchèques, ça avait duré très 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 longtemps le dimanche soir et vraiment c'est tout à fait incertain parce que Simona Halep, elle a beau être numéro 2 mondial, gagnante de Roland-Garros en simple l'an dernier, elle est tout de même un peu moins efficace en double.
Jean-Pierre Blimeau, prenez des munitions pour tenir le coup, merci.
Et merci Cécilia Arbona.